la vie de Cécile est entourée de couleurs. Depuis qu'elle est toute petite, elle dessine, elle peint. Dans sa maison, il n'y a pas un seul mur qui n'a pas de tableau accroché, de toutes sortes. Dès qu'elle a un coup de cœur, elle l'encadre et elle lui fait une place de choix. Ils vont bientôt d'ailleurs déménager, son mari et elle, pour laisser la place à leurs deux filles. Après 49 ans passés dans leur petite maison-chalet remplie de coins et de recoins, aucune chance de laisser un tableau derrière eux. Ils prendront tout. Bienvenue dans Il était une fois des sages, un podcast créé et réalisé par Marie Ray. La musique est de Pascal Rochat. Cécile a préparé minutieusement notre entretien. Elle a noté avec application dans un cahier ses réflexions. Elle voulait être certaine de ne rien oublier. Elle dit qu'il lui faut du temps pour faire les choses. Jamais sans ses boucles d'oreilles colorées, toujours avec son sourire radieux, Cécile amène la vie autour d'elle. Une vie douce et sereine.
Je m'appelle Cécile Jeunecan au début. Jeunecan, c'est un vieux nom genevois et je suis née à Genève dans une famille où il y avait déjà 4 enfants plus grands avec des distances d'âge importantes. Et mon frère aîné, Pierre, il a 15 ans de plus que moi. Il est vénérable en ce moment.
Cécile est donc la petite dernière, dans tous les sens du terme. Elle dit qu'elle est très différente des autres membres de sa famille. Elle réfléchit avec ses émotions, alors que les autres sont de vrais intellectuels. Elle avait d'ailleurs un père assez original.
Mon papa était un grand original. C'est un homme qui est électricien, mécanicien, qui s'est bricolé et qui savait tout réparer. Mais il fallait qu'on aille à son rythme. Il était particulier. Il était un homme un peu indépendant. Mais très dans tout le respect avec sa famille.
Cécile vient d'une famille protestante ancrée à Genève. Son grand-père paternel était pasteur et du côté maternel, c'était une famille très bourgeoise. Fêter l'escalade est une tradition familiale. Cécile participe encore au défilé chaque année en décembre, habillée en dame de l'époque. Si vous ne savez pas ce qu'est l'escalade, c'est la grande fête genevoise qui commémore la victoire des Genevois sur les Savoyards en 1602. La maman de Cécile a donc épousé un homme qui n'était pas de sa condition. Son père n'avait pas de fortune et ils ont vécu humblement tout au long de leur vie.
Voilà, alors on est resté dans ce style-là, une bonne famille qui respectons le protestantisme genevois.
Alors que Cécile n'était pas encore née, un événement va la marquer profondément.
Alors maman, c'est un bonheur. Maman, elle s'est convertie après son 4e enfant quand elle m'attendait. Elle avait 42 ans et son amie qui travaillait dans la paroisse de Saint-Gervais à Genève, elle l'a emmenée à des soirées du réveil. À Genève, il y avait des soirées à la rue de la Madeleine, enfin voilà. Et maman s'est convertie en m'ayant dans le ventre. Donc moi, je suis née dans le bain, comme Obélix. Et j'ai reçu sa foi certainement profondément ancrée, dès ma naissance, même avant. Et ça, c'est à noter parce que ça ne m'a jamais quittée. Je suis née dedans. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait toutes les phases de réflexion, de questionnement, mais j'avais toujours faim et soif du Seigneur, j'avais faim et soif de réponses à mes questions, et comment vivre la foi, c'était prenant. Simplement, mes frères et sœurs, c'était des intellectuels, et ils regardaient ça de loin.
Cécile dit que son père était particulier, mais elle aussi avait une particularité qui a fait qu'elle a dû développer, entre autres, son sens de l'observation.
J'étais une petite fille dernière, soumise, pas du tout rebelle. Du fait que je suis née légèrement malentendante déjà, et pas en toute bonne santé physique. Je devais me défendre contre des otites, contre la toux. Et on me mettait souvent chez mes oncles et tantes en garde parce que maman, dans la rue, elle trouvait que c'était pas très sain et qu'elle pouvait pas bien s'occuper de moi. Alors, elle a dû souvent me placer. Et peut-être que j'en ai eu quand même la petite tristesse d'être souvent séparée de ma famille, mais les gens qui s'occupaient de moi étaient très gentils. C'était mes oncles et tantes, et j'ai appris à vivre avec eux. J'ai appris à vivre de manière seule, souvent, à me débrouiller, à jouer toute seule. Et le dessin, il est né là, parce que je ne pouvais pas faire d'instrument de musique à cause de Louis, mais dessiner, ça y allait. Et ça m'a rempli ma vie depuis 4 ans, l'âge de 4 ans.
Cécile pouvait alors passer jusqu'à 3 mois d'affilée chez l'oncle et la tante à Bâle. Ils n'avaient pas d'enfants et c'était pour eux une aubaine d'avoir cette petite fille avec eux. Un jour, Cécile a quand même demandé à sa mère si elle se débarrassait d'elle quand elle la plaçait. Ce à quoi sa mère a répondu « Cécile, je t'ai désirée, mais la vie pour toi dans notre rue, ce n'est pas bon pour tes poumons. » Cécile se rappelle que sa maman se rattrapait en s'investissant beaucoup pour l'aider avec l'école. Parce que l'école, ce n'était pas son fort. Ce n'était pas qu'elle était moins intelligente. C'est juste qu'il lui fallait plus de temps.
Et mon papa, qui regardait mon carnet d'école, il regardait tous les chiffres du français, du calcul, qui étaient très, très moyens. Et puis là, je lui disais, t'as vu, là, il y a un 6, c'était le dessin. Puis il disait, oui, mais ça t'aide pas à avoir un métier. Alors, comme étaient ensemble les parents anciennement, il était fier de ses 4 grands-fils et filles qui y arrivaient bien. Mais moi, j'avais besoin. Je annonnais sur mes devoirs, maman m'aidait. On faisait des trous dans le papier pour effacer les ratures. Mais tu sais, c'était l'encre qu'on prenait avec la plume. Et puis à Genève, ben oui, c'est on demandait d'avoir des capacités à l'école. Mais j'aimais bien vivre, j'aimais tout ce qui se passait. J'étais joyeuse quand même, j'étais vraiment joyeuse. J'étais pas une enfant dépressive, seulement sensible, voilà. J'avais besoin d'être confirmée dans ce que je faisais, puisque j'étais pas très bonne à l'école.
Certains auraient gardé de la rancœur d'avoir été mis comme ça à l'écart. Mais Cécile a toujours un regard rempli de douceur quand elle évoque son enfance, même quand elle raconte 2 épisodes pas banals qui ont failli lui coûter la vie.
La première fois, c'était plus petite, j'avais 5 ans et j'allais faire une commission pour maman. Il fallait traverser une grande rue, la rue de la Servette. Et il n'y avait pas encore toutes les lignes jaunes et les boutons rouges et verts et tout. Et j'ai traversé, mais j'ai pas entendu le bus venir qui a dû planter les freins pour pas écraser la petite fille que j'étais. Tout le monde a crié autour de moi. Ils ont cru que j'étais déjà sous le bus. Et puis je pense que les gens dans le bus ont été très bousculés. Mais moi, je regardais cette immensité en me disant « Oups, oui, heureusement, il s'est arrêté. » Mais personne m'a grondé. Tout le monde était content que je sois en vie. Alors, je pense qu'il y a un ange qui a poussé le bus, mais qui l'a retenu. Il ne voulait pas que je meure maintenant. Mais c'est vrai, c'était comme ça à l'époque. On n'était pas encore très habitués. Et puis, la deuxième fois, j'étais en vacances en été, parce que maman me plaçait facilement. J'étais un peu plus grande, là. Peut-être 7, 8 ans. Oui, 6 ans. 6 ans et demi, 7 ans. Et là, j'étais avec d'autres filles dans un chalet à Grillon. Et à cette époque, les chalets avaient une grange pour le bois. Et puis, les filles, chacune faisait un travail pour leur maman qui était seule, qui était veuve et qui faisait la blanchisserie à Grillon. Et là, je me souviens d'une fois où la plus jeune qui était près de moi, 8 ans, eh bien, elle m'a dit, viens, on va faire du bois. Puis elle maniait la hache déjà pour couper les bûches et les mettre dans un panier pour faire le feu. Et puis, comme les idées viennent parfois, elle me dit, Eh bien, tu veux voir si la hache, elle fait bien, elle marche bien. Mets ta tête là, sur le billot. Et moi, j'ai obéi parce qu'elle m'impressionnait. Puis j'ai dit, mais tu veux, pourquoi tu veux m'essayer? Tu tapes pas? Et puis, comme je tremblais intérieurement, elle m'a dit, oui, mets ta tête là, tu verras. Et puis, elle dressait la hache au-dessus de ma tête. Puis je me disais, Seigneur, permet qu'elle elle continue pas son geste. Et puis au bout d'un moment, ne voyant rien, sentant rien, je me suis dit, elle n'a pas encore tapé. Elle m'a dit, tu peux te lever. Il y a quelque chose qui a retenu son bras. Elle n'a pas été essayée de me... Elle a juste effleuré, sans taper, elle a effleuré la tête, mais elle n'a pas... Et j'ai transpiré un moment parce qu'à ce stade, on se rend compte de choses. Puis je me disais, j'ai quand même dit, Seigneur, dans mon cœur, je te remets ma vie, j'espère qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout, qu'elle ne va pas taper avec la... et je pense que là aussi, il ne voulait pas encore, que ce n'était pas encore mon moment. Et comme ça, dans tout le long, j'ai évité beaucoup de choses. Dieu a veillé sur moi constamment, il a permis que je vive.
Cécile a développé son goût pour les arts depuis qu'elle est toute petite, plus particulièrement la peinture et le dessin. Mais comme avait dit son père, bon, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie.
Alors, tranquillement, j'ai fait la culture générale. Et en fait, je peux dire que j'ai trois métiers. Parce qu'en culture générale, c'était l'ancienne école ménagère. J'avais appris à coudre et à cuisiner très bien. Et ça m'a aidé pour m'organiser plus tard, puisque j'étais lente. Et donc, je pouvais accomplir les tâches parce que je les avais bien apprises. J'avais pas besoin d'être perdue dans mon ménage après. Mais aussi, je suis devenue infirmière. J'ai fait l'école du Bon Secours, infirmière assistante. Et j'aimais beaucoup parce qu'on est près des malades. J'étais pas une technicienne. Et ça me suffisait, pourvu que j'étais déjà là, ouverte à la souffrance physique, humaine. On m'accueillait bien, toujours. J'aimais bien. J'ai travaillé quelques années.
Cécile fréquentait régulièrement l'église de Saint-Gervais, où le pasteur Philippe de Corvet officiait. Celui-ci possédait un mât en Provence, à Chardon. Il organisait des camps pour les jeunes à Pâques.
Et c'était là que j'ai vraiment été tellement contente de pouvoir aller dans la nature avec la Bible. Et puis on devait se concentrer sur un texte. Et puis tout le monde parlait le même langage. On parlait de la foi. Et j'étais bien là, dans cette Provence de la Drôme.
Et forcément, dans ces camps, il y avait des jeunes hommes et un en particulier.
J'ai découvert Jean-Pierre parmi les autres jeunes de la JP, comme on disait, et je l'ai observé. J'ai vu tout le monde l'aimait bien parce qu'il était gentil et puis qu'il était toujours à rendre service. Ça me plaisait beaucoup, cette propension à rendre service. Puis je me disais, je trouve bien qu'il a... Mais je me disais, j'ai aucune chance auprès de lui parce qu'il y avait d'autres filles qui lui tournaient autour. Comme c'est les jeunes, hein. Et puis lui aussi s'est aperçu de moi.
Cécile et Jean-Pierre avaient une amie en commun, qui avait bien vu la petite étincelle qui s'était allumée entre eux. Elle les a invités une fois pour un repas.
Et qui nous a une fois fait manger de la fondue chez elle. Et elle disait, si on lâche le pain dans la fondue, ben on doit embrasser ceux qu'on veut. Alors, Jean-Pierre et moi, on enfonçait notre bout de pain très fort sur la fourchette parce qu'on était très gênés, on ne s'était rien déclaré encore.
Jean-Pierre est parti quelque temps pour ses études. Et un jour, Cécile reçoit une carte de sa part qui lui fixait un rendez-vous.
Il m'a invité à faire un tour sur son scooter et puis on est allé en pleine campagne genevoise. Puis il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Puis moi, je tremblais intérieurement. Je me disais, je devine un peu. Mais on était très émus. Et c'est pas comme maintenant où les gens se parlent très facilement. Il fallait gérer ce qu'on vivait. Et ça a fait qu'il m'a dit qu'il m'aimait et il m'a dit, je veux pas que ça soit un flirt, j'aimerais que ça aboutisse, qu'on se marie. Tout de suite, il a dit la déclaration qu'il voulait s'engager avec moi. Il ne voulait pas juste faire un essai.
Elle a dit oui. Les fiançailles ont duré 3 ans. Elle a rencontré la belle famille, bien différente de la sienne. C'était des horlogers. Tout le monde allait d'ailleurs acheter leur alliance chez eux, sauf Jean-Pierre et Cécile. Il se trouve que leur amie, celle qui avait organisé la fondue, était bijoutière. Alors ils lui ont demandé de faire la leur. À l'image de Cécile, les fiançailles se sont faites toutes tranquillement, à leur rythme.
Et comme on était chacun dans nos deux familles, qu'on ne pouvait pas s'offrir l'hôtel, on a été chaste jusqu'au mariage. Et je n'ai pas regretté parce qu'on se disait on va se découvrir petit à petit. Bien sûr, ça s'est fait progressivement. L'intimité est venue au cours de ces 3 ans, tout doucement, paisiblement. Mais voilà, on a appris à se connaître sous toutes les formes parce qu'on faisait beaucoup de camps ensemble, des camps de cadets. Et on a été ensemble pour suivre les jeunes du catéchisme. On était à peine plus âgés qu'eux, on faisait aussi des camps. Et finalement, à 20 ans, eh ben, voilà, Jean-Pierre avait 21, 22, un petit peu plus que moi. Et on s'est mariés jeunes. D'ailleurs, à l'hôpital, les infirmières elles me disaient « Mais pourquoi tu te maries maintenant? Tu ne te rends pas compte, c'est long la vie !» Puis je disais « Mais on s'aime profondément et puis j'ai confiance. » Je n'osais pas non plus trop témoigner que je m'attendais à Dieu et lui aussi. C'était tout s'est fait dans l'ordre des choses, paisiblement.
Ils ont accueilli avec bonheur 3 filles, Marie, Diane et Claire. Pendant un instant, Cécile s'est demandé si avoir un garçon aurait été aussi bien, surtout pour Jean-Pierre. Mais cette idée s'est vite envolée. Ces 3 filles les ont comblées. Cécile s'est toujours attendue à Dieu, dans tous les domaines de sa vie. Elle n'a eu cesse de le chercher, de questionner, de faire mieux. Très tôt, elle a eu cette notion de faire bien. Elle se rappelle un épisode où elle avait pris un petit objet dans un magasin.
Je me souviens aussi que maman m'avait reconduit dans un magasin où j'avais piqué un taille-crayon parce que j'aimais bien tout ce qui était papeterie. Une fois, j'étais rentrée un tout petit peu plus tard de l'école, j'avais passé au magasin. Et puis, elle m'a dit, mais tu rentres tard aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? Et puis, je lui ai dit, ah ben oui. Et puis, j'avais mes mains dans le dos avec le taille-crayon. Puis, elle me dit, qu'est-ce que t'as dans le dos? Puis, je lui ai montré, c'était le taille-crayon. Puis, elle m'a dit, tu l'as reçu, qu'est-ce que c'est? Puis, je lui ai dit, non, je l'ai trouvé dans le magasin. Et dans le magasin, elle m'a dit, mais tu sais qu'au magasin, on doit payer ce qu'on prend. Oui, mais j'avais pas de sous. Puis je voyais les gens prendre dans les... C'était les premiers self-service. Mais j'étais quand même consciente que c'était pas juste, puisque je le cachais dans mon dos. Et donc elle est repartie avec moi dans le magasin, puis on a rendu le taille-crayon. Et ça, je l'ai appris à 6 ans. Et donc, j'ai refait ça avec nos propres filles. D'aller ramener quelque chose qui avait été pris dans les poches. Ou... Je crois qu'il y a des tentations terribles que les enfants doivent vivre. Et nos filles les ont vécues aussi. Mais de fait qu'on raconte ça, ça montre combien chacun doit travailler d'abord sur les petites choses.
Cécile et Jean-Pierre se sont engagés pour les jeunes en faisant beaucoup de camps de caté, là où c'est le plus facile de les atteindre. Ils sont restés quelques années à Genève pour finalement arriver dans l'église de la Fraternelle à Nyon.
et on s'est senti comme à la maison. Enfin, on pouvait chanter, prier de tout notre cœur librement. C'était une très grande différence. Et puis les enseignements étaient solides avec Richard Fossera. Il a répondu à beaucoup de mes questions.
Des questions, Cécile s'en pose toujours. Elle ne se contente pas de réponses toutes faites. Elle veut expérimenter. Elle a beaucoup recherché le Saint-Esprit. Et c'est en passant par les eaux du baptême une troisième fois. Oui, une troisième fois parce que la première fois, c'était dans le ventre de sa maman. La deuxième fois, c'est quand elle était bébé. Et bien, la troisième fois, c'était comme adulte, suite à toute une réflexion qu'elle avait faite avec son pasteur. Elle a donc vu le Saint-Esprit agir suite à ce troisième baptême, mais pas exactement comme elle se l'était imaginé.
Jusqu'à 33 ans, où Richard a répondu à mes questions avec fermeté, et j'ai accompagné tout un groupe de personnes dans l'eau du lac. J'étais tellement contente de vivre ça, puis je me disais, après je vais recevoir le Saint-Esprit, ils vont prier pour nous. Et je n'ai pas reçu le don du Saint-Esprit comme je croyais, parce que je pensais que de parler en langue, c'était une des seules façons de montrer le Saint-Esprit. Non, il a prié pour moi, et les jours qui ont suivi, je n'ai plus de migraines. J'ai souffert de migraines pendant des années, depuis ma petite jeunesse, dès 9 ans, j'ai commencé à avoir mal à la tête, et puis c'est venu de plus en plus fréquemment avec l'adolescence. Et puis je vivais avec ça, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas beaucoup de médicaments à l'époque, et puis je les vomissais, donc ça ne servait à rien. Je savais seulement qu'il fallait un moment la nuit et dormir et ça allait mieux. Et je me soignais en me couchant. Et quand je suis arrivée au mariage avec ça, j'en ai eu beaucoup moins avec les grossesses. Mais quand je suis sortie de l'eau du baptême, j'ai encore eu une dernière migraine parce que j'étais émue. Et après, j'ai appris à déposer mes soucis, mes préoccupations, mes craintes dans la prière d'une autre manière. En tout cas, Dieu, je pense que Jésus m'a de nouveau guéri. J'avais plus de migraines après. Et alors j'ai dit, le Saint-Esprit est venu, il m'a guéri.
Cécile et Jean-Pierre ont toujours fonctionné en tandem, jusqu'au jour où son mari est devenu conseiller au sein de la fraternelle.
Et j'ai là senti que j'étais larguée, parce que j'étais prête à aider mon mari dans les camps de cathés. Enfin, j'avais des enfants qui avaient grandi, puis je pouvais m'engager moi aussi. Et je me suis retrouvée avec l'image d'une machine à laver qu'on met derrière le jardin parce qu'elle est plus bonne au service. Oui, ça m'émeut encore maintenant. Et donc, j'ai dit, mais je fais quoi maintenant, Seigneur, si je ne peux pas faire ça? Et petit à petit, dans la cellule de prière où on était à Mille, quelqu'un a eu une image dans sa prière, et puis ça, c'était le Saint-Esprit aussi, parce qu'il a expliqué quelque chose de tellement personnel à moi que je ne lui avais jamais dit. Il a dit, je vois une grande montgolfière qui est en train de se dégonfler. Et puis j'écoutais, j'entendais tout, parce que j'étais à côté de lui. Et il a dit, oui, mais elle n'est pas abîmée, elle va être regonflée avec un feu, et beaucoup de petites montgolfières vont sortir d'elle. J'ai dit, mais c'est pour moi, pourquoi? Parce qu'on allait à Châteaudet où il y avait toutes les montgolfières pour les camps des jeunes. Et je sais qu'elle était dégonflée, ma montgolfière, parce qu'il n'y avait plus les camps. Il n'y avait plus ça où je pouvais agir. Et là, j'ai été très consolée. Et puis j'ai réalisé que je devais prendre en main ma destinée pour servir le Seigneur. Et là, j'ai commencé à prendre les cours avec Thierry Juvet. La fac, c'est le cours pendant 4 ans, une fois par mois, pour être accompagnée, écoutée et consolée. Et puis j'étais déjà très ouverte à la compassion de l'autre. Et je me suis dit, je continue parallèlement à Jean-Pierre. Je ne suis pas faire le travail avec lui, mais parallèle. Et il m'a guidée pour prier avec d'autres. Et ensuite, j'ai fait la deuxième formation plus tard, après 40 ans, avec Poujol, aussi 4 ans, petit à petit.
Dieu est là où on ne s'y attend pas. Cécile, malentendante, a développé une écoute toute spéciale avec son cœur. Elle prend le temps qu'il faut pour accompagner celui qui est en difficulté.
On reste avec des petits engagements avec les jeunes qui nous permettent de leur transmettre ce dont on est sûr. Parce qu'il fallait aussi attendre de voir comment Dieu agissait dans notre vie avant de dire « oui, il est fiable et fidèle ». Et ça, on peut absolument le croire. Et maintenant, j'ose le proclamer qu'il est fidèle, qu'il entend nos prières. Toutes nos prières étaient exaucées au fur et à mesure. Pas de manière fracassante, pas de manière tchic avec le doigt, mais il m'a appris à patienter. Ça m'a évité aussi de m'enorgueillir de quoi que ce soit. Il faisait les choses en son temps. Et j'ai pris un passage qui disait, dans Proverbes 10, 22, il y a un passage qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, celui qui s'attend à lui, et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et donc, ça, j'ai pris ça en plein dans le cœur en me disant « Il ne va pas me faire glisser sur une peau de banane parce que je me suis trop avancée. » Et prudemment, et avec lui, j'ai toujours vécu la bénédiction. Et puis, il y a un autre passage dans Ésaïe 50, verset 4, qui dit « Le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache par quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter. Comme doivent écouter les disciples ? Le Seigneur m'enseigne à écouter. » Et je ne lui résiste pas. Et c'est bon pour moi qui n'entends pas bien, parce que j'ai toujours pu entendre sa voix à lui, dans mon cœur, et dans la parole surtout.
Lorsqu'on côtoie Cécile, on se met immédiatement à son rythme. Un rythme lent, doux, qui donne le temps de contempler ce qui nous entoure. Comme si nous étions assises devant une toile dans un musée, à admirer le travail de l'artiste. Je crois qu'elle est comme ça, Cécile. Dans le tourbillon de nos vies, à mille à l'heure, elle nous invite à nous arrêter et à regarder qui est Dieu. Vous avez écouté « Il était une fois des sages ». À bientôt pour un prochain épisode.